France Inter.
7h, le journal Luc Chemla, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, fermez les guillemets.
Les mots d'Emmanuel Macron au sujet d'une éventuelle intervention militaire dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans un entretien au Parisien, le chef de l'État fait de nouveau passer un message et assure qu'il n'y a aucune mésentente avec le chancelier allemand. Explication dès le début de ce journal. Nous serons également dans le 19e arrondissement de Paris à la rencontre d'habitants excédés par la présence en nombre de consommateurs de crack. Un projet de poulailler géant suscite la controverse dans la Drôme. Et puis dans la douleur, l'équipe de France de rugby remporte le crunch dans le tournoi Destination. De quoi voir l'avenir plus sereinement après un début de compétition compliqué.
Les invités de ce matin à 7h50 en direct de Sérimania à Lille, une grande réalisatrice Charlotte Brandström, franco-suédoise qui a notamment travaillé sur Les Anneaux du Pouvoir. Et à 8h20, grand entretien avec le romancier et réalisateur Marc Duguin. Il publie ces jours-ci L'Orgie Capitaliste.
France Inter.
Emmanuel Macron persiste et signe au sujet d'une éventuelle intervention militaire dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Dans un entretien au Parisien publié hier soir, le président l'affirme. Des opérations au sol en Ukraine par les Occidentaux seront peut-être nécessaires à un moment donné pour contrer les forces russes. Après ces multiples déclarations ces dernières semaines sur le sujet qui ont semé le trouble chez nos alliés et malgré la réprobation quasi unanime des oppositions en France, le chef de l'État fait donc de nouveau passer un message très clair. Rien ne doit être exclu pour empêcher la Russie de gagner la guerre. Une interview accordée dans l'avion qui le ramenait à Paris après son déplacement vendredi à Berlin pour rencontrer Olaf Scholz. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'assure, il n'y a aucune mésentente sur cette question au sein du couple franco-allemand, Grégoire Le Callot.
Il n'y a jamais eu de fâcherie entre le chancelier et moi, affirme le président dans l'avion qui le ramène à Paris. Pour autant, il admet, mezzo voce, que l'ambiance n'était peut-être pas au beau fixe avec le conjoint allemand. J'ai voulu venir très vite en Allemagne pour ne pas que s'installe un débat sur les divergences stratégiques qui existeraient, elles n'existent pas, dit-il. Et d'expliquer que les deux pays sont complémentaires, chacun dans leur couloir. L'Allemagne dépense plus que la France, a plus d'espace budgétaire, c'est une chance, assure Emmanuel Macron. La France, de son côté, peut faire des choses que l'Allemagne ne peut pas, lâche-t-il. Lesquelles ? Il précise, tout en restant dans l'art du flou, peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelle qu'elle soit, pour contrer les forces russes. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Une réponse aussi aux critiques outre-Rhin qui accusent Paris de parler haut, mais de payer moins, que l'Allemagne paie plus, puisqu'elle a de l'argent, à la France de montrer les dents, avec la Pologne, troisième pays représenté vendredi à Berlin.
Et dans cette interview, Emmanuel Macron confirme également qu'il se rendra dans les prochaines semaines en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky. Et le président ajoute avoir renoncé un voyage à Kiev pour se rendre à Berlin vendredi, et s'y entretenir donc avec le chancelier allemand et le premier ministre polonais. En Russie, cette fois, troisième et dernier jour de vote pour l'élection présidentielle où il n'y a pas de suspense. Vladimir Poutine est l'immense favori à sa propre succession. Un scrutin perturbé par la guerre. Une nouvelle attaque de drones a provoqué un incendie dans une raffinerie dans le sud du pays et a fait un mort, affirmation ce matin des autorités régionales qui accusent l'Ukraine. Cette semaine, les opérations de ce type contre des raffineries et des sites énergétiques se sont multipliées en Russie. L'armée annonce d'ailleurs avoir abattu ces dernières heures 35 drones ukrainiens. Désabusé, exaspéré, voilà l'état d'esprit de nombreux habitants à Paris et en Seine-Saint-Denis face à la présence dans les rues de consommateurs de crack. À 4 mois des Jeux Olympiques, la préfecture de police prend pourtant des arrêtés successifs pour tenter de faire disparaître ou du moins déplacer leur rassemblement. Les derniers en date interdisent même leur regroupement dans près d'une centaine de rues de la capitale et d'Aubervilliers. Mais cette semaine, plusieurs associations ont décidé de contester en justice ces décisions qui sont selon elles stigmatisantes et contre-productives. Dans le 2e arrondissement de Paris, par exemple, certains habitants sont tout simplement excédés. Sarah Mansoura les a rencontrés.
Quartier Rosa Parks, les allées et venues sont incessantes.
Donc là, vous voyez, on assiste à des transactions.
Claire Riveraine est membre du collectif Rosa Crack, les montre du doigt, l'air fatigué.
Des intrusions permanentes dans tous les bâtiments du quartier, des rues qui sont insalubres, des agressions physiques, des agressions verbales.
Pour elle, les arrêtés anti-regroupement peuvent rassurer mais ne règlent pas le problème et les attaquer en justice non plus car d'autres seront repris.
Nous, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer derrière. Ce public-là qui erre comme ça, là, en journée, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que nous, en fait, ça va pas nous changer la vie, en fait.
En attendant, les associations dénoncent des mesures stigmatisantes, approximatives, mais qui surtout entravent leur travail de soins et de prévention. Naïra Meliava, directrice générale d'Opelia, remarque aussi qu'à l'approche des JO, le périmètre de ces arrêtés ne cessent de s'élargir.
Quand on sait où est situé, par exemple, le futur village olympique, il n'est quand même pas dans une zone où on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas des trafics, des usagers de drogue, etc. Donc on peut imaginer que progressivement, il va y avoir Le recours à ce type d'arrêté, là, il y a quelque chose qui semble, sous couvert de temporaire, parce que reconduit de mois en mois, va en réalité durer vraiment longtemps.
Comme les riverains, les associations demandent une stratégie coordonnée, concertée, mais surtout au long cours.
Un reportage de Sarah Mansoura dans le 19e arrondissement de Paris. Et les associations se réunissent régulièrement pour parler de ce sujet avec des représentants de la ville de Paris, la préfecture de police, la région Île-de-France et l'agence régionale de santé. La prochaine réunion est d'ailleurs prévue vendredi prochain.
7h05 et direction la Drôme maintenant, où un projet de poulailler géant sème la discorde.
Nous sommes près de Romans-sur-Isère, plus exactement à Perrin, un peu moins de 3000 habitants. Le projet prévoit la construction de 3 nouveaux bâtiments. Le nombre de volailles passerait donc de 30 000 à 140 000. Et sur une année, plus d'un million de poulets seraient élevés sur ce site. Une enquête publique environnementale a été ouverte par la préfecture de la Drôme et s'est terminée hier. Une extension qui ne ravit pas vraiment les habitants, Valérie Lombardo.
Non, cet agrandissement porté par deux agriculteurs du village en lien avec un géant du poulet industriel est loin de faire l'unanimité. Les habitants redoutent des nuisances, à commencer par les odeurs, explique le maire de Perrin, Philippe Barneron.
Il y en a qui disent qu'ils sentent rien, puis d'autres qui sont jusqu'à 1 km. Il y a les odeurs, plus il y a des mouches aussi l'été, qui les empêchent de manger sur la terrasse. Ça inquiète la population. Ouais.
Une inquiétude partagée par le collectif Citoyen Santé Environnement. Ces poulets, produits pour alimenter la filière du sud-est de la France, seront élevés dans de très mauvaises conditions, selon le président de ce collectif, Bernard Pipon.
Ce qui est prévu, c'est une densité de 21 poulets au mètre carré. C'est-à-dire que chaque poulet aura moins d'une feuille A4 de liberté. Ce qui est quasiment de la maltraitance. C'est comme si on mettait 3 hommes ou 5 hommes au mètre carré. Quoi. Donc, c'est difficile.
Les deux agriculteurs de la commune à l'origine de ce poulailler géant n'ont pas souhaité s'exprimer, mais un élu de la Chambre d'agriculture de la Drôme précise que tout est contrôlé par les services de l'État et que ce projet est mûrement réfléchi depuis plus de 2 ans. La décision finale appartient au préfet de la Drôme. Elle devrait intervenir d'ici 1 à 2 mois.
Le reportage de Valérie Lombardo de France Bleu Drôme-Ardèche. C'est le visage marqué, mais avec un grand sourire sur les lèvres, que les rugbymen du 15 de France ont terminé le tournoi des 6 nations. Au terme d'un match à suspense et grâce à une pénalité de Thomas Ramos, à 2 minutes de la fin, victoire des Bleus 33-31 face à l'Angleterre hier soir à Lyon. Un deuxième succès d'affilée dans la compétition, obtenue dans la douleur, pour le plus grand bonheur bien sûr du public et des joueurs, Fanny Lechevestrier.
Et soudain, le Groupama Stadium a basculé dans l'hystérie collective. Au bout du suspense, Thomas Ramos vient de passer des 50 mètres. La pénalité de la gagne, les larmes aux yeux au moment de la commenter.
Un peu d'émotion là, parce que ça n'a pas été un tournoi facile de gagner comme ça sur le dernier match. C'est bien, ça récompense l'équipe.
Une émotion à la hauteur du soulagement ressenti au terme du tournoi le plus difficile depuis 5 ans, reconnaît le sélectionneur Fabien Galthié.
On a vécu un tournoi d'enfer. Au sens propre, comme au sens figuré. C'était brûlant, il n'y avait pas de répit. On était tout le temps sur la brèche, on était d'enfer.
Pour s'en extirper, les Bleus ont su trouver une force de caractère inédite, décrit l'ailier Louis Bielle-Biarret.
Le projet de jeu a été critiqué, les coachs, les joueurs, tout le monde y est passé. Mais on est tous restés soudés, tout le monde a cru à 100% au projet et c'est ce qui fait que ça nous sourit un peu à la fin.
Et si personne n'ose parler de tournoi réussi, les supporters, eux, y voient des promesses, notamment avec l'amalgame entre les anciens et les 7 jeunes pousses lancés dans le grand bain.
Voilà une belle équipe, là.
Ah bah, de toute façon, la jeunesse, c'est important. La jeunesse, c'est l'avenir.
Oui, c'est prometteur. Les 4 sont encore là, mais la jeunesse est présente et ça fait plaisir à voir.
Avec l'impression que le 15 de France peut à nouveau regarder devant en laissant le poids du mondial derrière lui.
Les Bleus terminent deuxième du tournoi derrière les Irlandais qui, eux, ont battu l'Écosse hier 17-13. De son côté, l'Italie finit en beauté avec un succès 24-21 au Pays de Galles. Les Italiens sont 5e du tournoi avec 11 points, leur meilleur résultat de leur histoire dans la compétition.
C'était le journal de Luc Chemla. À suivre, de l'art contemporain dans une église, et ça marche, vous verrez.